DW. Pulsation. Les États-Unis sont divisés à bien des points de vue. La question de l'indemnisation des Afro-Américains pour les préjudices subis par leurs ascendants pendant la période de l'esclavage et de la ségrégation fait débat depuis longtemps. La Californie semble bouger la première. En fin d'émission, dans Coup de projecteur, nous rendrons hommage à Hendrik Witboy, l'un des plus grands résistants namibiens aux colons allemands et décédé il y a aujourd'hui 115 ans. Mais tout d'abord, le mot du jour, la Maison Blanche. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand. Au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
On vote aujourd'hui aux États-Unis pour élire le 46e président ou maintenir le 45e en fonction. La Maison-Blanche attend donc de savoir qui va l'occuper ces 4 prochaines années. D'où vient ce nom donné à la résidence du chef de l'État américain ? Maison-Blanche, d'abord, s'écrit avec une majuscule à chaque mot et un tiret entre les deux. À l'origine, le bâtiment inauguré en 1800 était appelé palais ou manoir présidentiel. Le terme Maison Blanche est apparu, selon la légende, après un incendie survenu en 1814 qui ne laissa que les murs intacts mais noirs de suie. Et la peinture blanche utilisée pour masquer les traces du sinistre aurait conduit à l'appellation désormais consacrée. Une autre hypothèse veut que son nom provienne de l'ancienne demeure de l'épouse de George Washington, et c'est possible puisque les travaux de la Maison Blanche ont débuté en 1792, soit 3 ans après le début du mandat du premier président des États-Unis. Aujourd'hui, la résidence de style néoclassique, après une reconstruction dans les années 1950 et plusieurs ajouts, dispose de 132 pièces avec des dizaines de bureaux, dont le plus connu, celui du président, le bureau ovale. La propriété qui l'entoure est immense. Outre différents jardins, on y trouve, entre autres, un court de tennis, un terrain de basket, une piste de jogging et un green de golf. Mais il ne faut pas s'imaginer une ambiance un peu lourde et feutrée, car 1800 personnes travaillent à la Maison Blanche. Un véritable complexe qui suscite nombre de fantasmes en tant que symbole du pouvoir de la première puissance mondiale. Dans Lettres à la Maison Blanche, le chanteur français d'origine rwandaise Corneille fait appel à la puissance américaine.
Je viens te voir en grande détresse, j'ai les valises pleines de messages SOS. On dit de toi que tu fais la loi, la pluie, la paix et plus que ça. On a crié en vain chaque fois, mais comme on n'a rien, nous paraît qu'on vaut pas très cher, nous. Mais tant qu'à faire le beau et Dieu sur terre, donne-nous un peu de ta voix et ton or, un peu de tes âmes forces. Pourrais-je peut-être t'intéresser à un monde oublié? Il y a de l'amour à semer. Yeah. Un peu de ta voix et ton or, un peu de bras de tes âmes forces. Pourrais-je peut-être t'intéresser à un nouveau marché? Il y a de la paix à récolter.
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. Comment peut-on racheter l'esclavage, le racisme et l'injustice? Depuis 150 ans, le thème de l'indemnisation aux États-Unis fait partie de la discussion politique avec plus ou moins d'acuité. Il y a environ 400 ans, Les colons blancs amenaient les premiers esclaves noirs aux États-Unis. Il s'agissait notamment de main-d'œuvre pour travailler dans les champs, construire les routes et les voies de chemin de fer et servir de domestique dans leurs maisons. Pendant 250 ans, cette pratique a perduré avant d'être interdite, mais elle a laissé des traces profondes dans la société américaine. Les Afro-Américains ont travaillé dur, mais n'ont fait qu'enrichir les blancs sans pouvoir s'enrichir eux-mêmes durant des siècles. C'est pourquoi le débat fait rage dans le pays depuis longtemps autour de la question de la réparation. Faut-il indemniser les descendants d'esclaves ? L'État fédéral de Californie vient de faire un pas dans cette direction. Une commission planche sur la question de savoir quelle somme d'argent cela pourrait représenter. La Californie va-t-elle faire des émules ?
Le sujet me trotte dans la tête depuis des années. Ça fait des décennies qu'on observe quelles sont les propositions au niveau fédéral, mais jamais le sujet ne retient vraiment l'attention.
Shirley Weber est déléguée démocrate à la Chambre basse de l'Assemblée californienne. Elle a rédigé un projet de loi pour mettre la question à l'ordre du jour en Californie.
La Californie est un État libéral et puis nous avons une forte majorité démocrate à la Chambre basse et au Sénat. C'est pourquoi nous pouvons parfois faire de grandes choses que d'autres États ne peuvent pas faire.
Le gouverneur Gavin Newsom soutient pleinement l'initiative de la politicienne afro-américaine. Son plan prévoit la mise en place d'un groupe de travail qui doit réfléchir à la façon de calculer un montant acceptable et en mesure d'indemniser les Américains noirs descendants d'esclaves.
Les gens parlent d'argent, mais compte tenu de la durée et de l'envergure de l'esclavage en Californie, il est très difficile d'en fixer le prix.
La Californie n'est pas un État connu pour ses pratiques esclavagistes, contrairement au Texas, au Tennessee ou à la Floride. Cela tient au fait que la Californie n'a rejoint la Confédération que très tard. Ce n'est qu'en 1850 qu'elle devient le 31e État fédéral. Or, l'esclavage a été officiellement aboli 15 ans plus tard, en 1865. Même si la Californie était alors considérée comme un État libre d'asservissement, il y avait des esclaves et des esclavagistes dans la région, explique Susan Anderson, historienne au musée afro-américain à Los Angeles.
The people who ran the government of California were dominated.
Au début, le gouvernement californien était dominé par des blancs favorables à l'esclavage. Certains députés possédaient eux-mêmes des esclaves. De temps en temps, des esclaves saisissaient la justice pour contester leur situation et avaient gain de cause auprès de certains juges. Mais les esclavagistes allaient voir d'autres cours de justice qui considéraient le droit à l'esclavage comme suprême et ne reconnaissaient pas le statut d'affranchi aux Noirs. Elle permettait donc de continuer à les asservir.
Quel était le nombre d'esclaves en Californie ? C'est difficile à dire. Selon Susan Anderson, les dossiers de justice et les témoignages d'époque dont elle dispose permettent de constater que l'esclavage continuait d'être pratiqué même après l'abolition officielle. Pour les politiciens et politiciennes qui s'engagent en faveur du versement d'une indemnisation, il ne s'agit pas seulement de la période durant laquelle les Noirs étaient en servitude. Il est aussi question pour eux de la longue période qui a suivi l'abolition, tout ce temps où les lois racistes et discriminatoires ont maintenu les Noirs dans une situation d'infériorité. Formation, emploi bien payé, droit de vote, droit à la propriété, autant de choses qui sont restées très longtemps inaccessibles pour la population noire. Les conséquences sont visibles jusqu'aujourd'hui. Le revenu moyen des foyers afro-américains se situe bien en dessous de celui des Américains blancs. C'est la raison pour laquelle la politicienne Shirley Weber souhaite qu'on prenne en compte l'esclavage et ses conséquences dans une vue d'ensemble.
Nous avons des générations et des générations qui, l'une après l'autre, ont été marquées par une politique raciste. Il faut donc regarder ces injustices en face et se demander pourquoi aussi peu de descendants d'esclaves sont propriétaires d'une maison et comment on peut faire pour leur en faciliter l'accès, afin qu'ils puissent transmettre un patrimoine à leurs enfants.
La question de la réparation financière pour les descendants d'esclaves reste entière. Et pourtant, il existe des précédents en matière d'indemnisation aux États-Unis. Par exemple, en 1988, les survivants d'un camp d'internement pour Japonais de la Seconde Guerre mondiale ont touché chacun 20 000 dollars. Environ 62 000 personnes étaient concernées. Le nombre d'Afro-Américains descendants d'esclaves est certainement, lui, beaucoup plus élevé. Merci à Katharina Wilhelm qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Coup de projecteur.
Puisqu'on parle de réparation, sachez qu'il en est également question dans le contexte historique du personnage dont nous allons parler maintenant. Hendrik Witboy. Ce nom ne vous dit rien ? Et pourtant, il a été un grand chef du peuple Nama dans le sud-ouest africain, l'actuelle Namibie. Hendrik Witboy naît vers 1825 au sein d'une famille de chefs de clan. Il est éduqué par des missionnaires luthériens et peut donc lire et s'exprimer dans trois langues européennes, allemand, afrikaans et anglais. Alors qu'il a quitté son peuple en direction du nord, Hendrik revient pour venger son père qui a été victime d'un rival pour occuper la tête de sa tribu. Il tue l'assassin de son père et devient chef du clan des Witboy avant de rassembler toutes les tribus Nama sous son commandement. Très vite, Hendrik Witboy entre en conflit avec les autorités coloniales allemandes qu'il combattra par guérilla pendant 4 ans. Un conflit qui prend fin grâce à un traité de paix qui garantit l'autonomie des Nama sous suzeraineté allemande. Mais à la suite du massacre des Herero, il participe à la rébellion de ces derniers en 1904. Blessé par balle au combat à la fin du mois d'octobre 1905, il s'enfuit à cheval et parvient à rejoindre ses troupes, mais succombe à son arrivée le 29, d'après certains. Un témoin allié des Allemands indique lui toutefois qu'il s'est éteint le 3 novembre. Quoi qu'il en soit, Hendrik Witboy reste l'un des héros de l'histoire coloniale namibienne, en témoignent des billets de banque du pays qui depuis 1993 sont à son effigie. On se quitte sur les notes du morceau Desert Blues du groupe namibien Shishani et Namibian Tales. C'est la fin de ce numéro de Pulsation, merci de votre attention. Vous accédez au podcast sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programmes sur la DW et à bientôt. Salut!